un texte que Paul adresse donc à l'église de Colosse. Ça fait déjà plusieurs mois que j'avais vraiment à cœur d'étudier avec vous ce texte de la parole de Dieu, un texte qui est vraiment très très actuel. Alors on aura 4 messages, découvrir la volonté de Dieu, ça c'est aujourd'hui, afin de grandir en maturité, la semaine prochaine connaître Christ, être enraciné, et quatrièmement vivre en Christ. Aujourd'hui je vais vous introduire un petit peu le contexte avant d'entrer dans le texte. Ce texte, il est question d'hommes et femmes, évidemment, des chrétiens, qui, finalement, le nœud du problème à Colosse, c'est qu'ils se laissaient influencer, ils se laissaient facilement tromper. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aimeraient tellement avoir une révélation spéciale de Dieu, une connaissance supérieure, plus importante que les autres, être à part, mieux comprendre que les autres, être tellement privilégié que Jésus va leur révéler même la date de son retour à eux seuls. D'autres mettent toute leur énergie à rechercher une expérience mystique, à rechercher quelque chose de surnaturel. Mais ils oublient Jésus. Ils oublient de passer par Christ. Puis certains vivent dans un monde complètement mélangé. On parle de syncrétisme. Finalement, tout se mélange. On mélange les philosophies orientales. On fait du yoga, du yogi et compagnie. Je ne sais pas quel terme. Enfin, on y va et on mélange tout. Syncrétisme, on fusionne plusieurs doctrines différentes et puis ça ne nous dérange pas. Et puis d'autres, ils ne savent pas vraiment se positionner, ils ne réalisent pas finalement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est bon, vrai, faux. Puis parfois ils sont même dans le péché, puis ils pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Alors voilà donc la raison principale pour laquelle Paul écrit cette lettre. Lui, il est en prison. Alors en prison, ce n'est pas derrière des barreaux, c'est une résidence surveillée à Rome entre 60 et 62. Et puis, c'est Tychique, collaborateur de Paul, qui a rapporté cette lettre de Rome à l'église de Colosse. Et il a rapporté aussi la lettre de Philémon, dont on a parlé récemment, si vous vous souvenez. Et puis, dans ces mêmes années, il a aussi écrit la lettre à l'église d'Éphèse et de Philippe. Donc, vous allez voir des similitudes, en tout cas, dans les propos de Paul. Alors, on pourrait penser que Colosse était une ville d'importance, mais en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. C'est une petite bourgade à 170 km d'Éphèse. Aujourd'hui, c'est situé en Turquie, et puis il n'y a aucune fouille qui a été entreprise parce que ça ne semblait pas si important de faire des fouilles. Donc on ne sait pas grand-chose, la ville n'existe plus. Mais à l'époque, Colosse était à côté de deux villes importantes, d'importance supérieure. C'était Laodicée, dont on parle dans l'Apocalypse, dans la vision de Jean, et puis Hiéropolis. Laodicée et Hiéropolis, deux villes très importantes, et dans ces trois villes, il y avait des chrétiens. Il y avait quelque chose qui se passait. Et puis c'était Épaphras, leur pasteur. C'est bien, un pasteur qui fait trois villes, ils n'étaient pas nombreux à cette époque-là, il fallait faire... Vous avez de la chance ici, vous avez trois pasteurs dans la même église. Mais là-bas, ils avaient un pasteur pour trois églises. Et puis c'est Épaphras lui-même qui avait implanté l'église de Colosse. Lui, il venait de Colosse, c'était son coin à lui. Et pendant que Paul était à Éphèse, il a implanté cette église. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que Paul n'a jamais... mis les pieds à Colosse. C'est intéressant quand même. Mais, à cause de son statut, on lui a demandé conseil. Épaphras est venu vers Paul, l'informer de la situation, et est venu lui dire, mais j'ai besoin de ton aide. Et puis donc, c'est pour cela que Paul a écrit à l'église. L'église avait environ entre 6 et 8 ans. Nous, on est à 80 ans là. Donc 6 et 8 ans. Voilà. Elle était jeune, c'était une jeune église. Et puis qui faisait donc face à ces problèmes dont j'ai fait mention. Alors, il écrit pour corriger les erreurs, mais il a une approche intéressante. Il ne commence pas par dénoncer ce qui ne va pas, on pourrait imaginer, il va commencer par dire ce qui ne va pas. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que Paul fonctionne. Il ne commence pas à dire avec fracas, alors ça vous faites faux, ça vous n'avez pas compris, non. Pas du tout. Il va commencer par dire la vérité. Il va commencer à rappeler leur identité. Il va présenter Christ. Il y aura beaucoup de choses à propos de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est souvent, on connaît cette lettre parce qu'elle parle de Christ. C'est un cours de christologie en soi, cette lettre. C'est magnifique. Il présente, il explique Christ. Paul veut les faire grandir en maturité. Il désire leur faire saisir le plan de Dieu. Et il désire qu'ils demeurent fermes. Ça, c'est le but de Paul. Donc, si vous voulez, il y a un noyau. Ça, c'est le problème. Paul va faire tout un travail avant de venir dans le problème. Il va commencer à leur parler de leur identité, il va commencer à leur parler de Christ pour que finalement, quand il adresse le problème, ils aient compris qui est Christ, qu'ils aient grandi, et puis que ça leur fasse voir la réalité du problème et changer de comportement. Et à la fin de la lettre, après le noyau, alors on voit comment ils vont vivre avec ce changement dans leur cœur. Est-ce que ce n'est pas une belle approche, ça ? Souvent, nous, on dit ce qui ne va pas, puis on s'arrête là. Vous avez déjà remarqué ? On ne cherche pas vraiment à faire grandir l'autre. On ne l'aide pas à s'améliorer. C'est facile hein, de dire ce qui ne va pas. Entre conjoints, hein, ça j'entends souvent, « Mon mari ne communique pas. » C'est le coup classique, les hommes ne communiquent pas assez. Ben, c'est vrai, tu as raison, mais on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Est-ce que tu vas juste lui le dire ? Mais il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas. Il faut que tu lui apprennes. Il faut que tu l'encourages. Il faut que tu le fasses grandir. Si juste tu constates ça, ça ne va rien changer. Le Saint-Esprit va faire son œuvre, ça c'est sûr. Nos enfants, moi je remarque, on aimerait toujours qu'ils sachent tout faire, même avant qu'on leur apprenne. C'est vrai quand même. Hein. Moi, je dois toujours lui dire, mais non, ce que tu as fait, c'est une bêtise. Et des fois, Jérémy me dit, mais je ne savais pas. Ben, c'est vrai. Je ne lui ai pas dit, je ne lui ai pas expliqué. Donc, il ne peut pas grandir. Je ne peux pas juste lui dire que c'est une bêtise. Employé-employeur. Aujourd'hui, si ça ne va pas, on vire. Hein, facile. On ne prend pas trop le temps de s'arrêter. Bon, la conjoncture est peut-être difficile actuellement. Mais c'est comme ça. On convient ou on ne convient pas aujourd'hui. On est dans une société ainsi. Personne ne nous donne la possibilité de grandir. Puis même à l'église, on est pas mal fort pour voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'on se donne la possibilité de grandir ? Est-ce qu'on donne la possibilité à l'autre de grandir ? On sait souvent ce qu'il faudrait changer à tout prix, mais derrière, on n'a rien à proposer non plus. Ça ne va pas, mais ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors Paul avait une approche progressive. Et ça, j'aime. Il avait du tact, ce Paul. La plupart qui est ici connaissaient ce verset de Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en Christ. N'est-ce pas ? Vous connaissez ça ? Ça, c'est le message que Paul veut faire passer. Vous avez tout pleinement en Christ. S'ils comprennent qui est le Christ, s'ils le vivent, alors qu'on peut essayer de les remettre sous la loi juive, qu'on leur parle de gnosticisme, ça ne va pas les intéresser, parce qu'ils auront compris qu'ils ont tout en Christ. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Connaître Christ, ce sera tellement important, ce sera le thème du message de la semaine prochaine. Nous verrons plusieurs affirmations sur Jésus, afin qu'on puisse vraiment connaître Christ en profondeur, pas juste superficiellement. Il n'y a que ça qui peut vraiment nous transformer. Alors ce matin, nous allons lire les 12 premiers versets du premier chapitre. Et puis je vous invite à vraiment garder dans cette lecture à l'esprit pourquoi Paul a écrit cette lettre. Parce que vous allez voir que Paul, il prépare le terrain. Eux, ils ne savent pas vraiment pourquoi il écrit. Et dès le début, Paul commence déjà à diriger un peu sa lettre, parce que lui sait la raison de son message. Alors on commence, Colossiens chapitre 1, le texte est à l'écran. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, est le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Alors, dès le début, on reconnaît le style de Paul. les salutations de Paul présentes dans les autres lettres comme Philippiens, Éphésiens. Puis au verset 6 déjà, il amène la pensée que la réalité de l'évangile est mondiale. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, l'évangile. Pourquoi il fait ça? Parce que face à leur situation, il veut tout de suite leur faire comprendre que Jésus-Christ n'est pas juste une personnalité locale, que l'évangile ne s'est pas juste arrêté à Colosse, mais qu'il s'étend, il est répandu, il progresse, il porte des fruits bien au-delà de leur réalité. Ce n'est pas juste un petit truc qu'on leur a prêché juste à eux comme ça. Non, non, non. Ils font partie de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer de la main. Non, l'évangile grandit. L'évangile est partout. C'est un phénomène mondial qui transforme des vies. Parfois, l'ennemi vient semer le doute en nous. On se demande si tout ça est vrai. Quand on traverse une période difficile, quand les océans se déchaînent, comme on l'a chanté, on a l'impression parfois que Dieu nous a abandonnés. C'est vrai? Vous avez déjà vécu ça? Il y a quelques sincères dans la salle, c'est bien. Puis dans ces moments-là, on se dit, mais franchement, l'évangile, pas beaucoup d'impact, quoi. Je prie, puis ça ne change pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vraiment j'ai raison, finalement, d'être là chaque dimanche avec ces chrétiens? Est-ce que c'est vrai, tout ça? Est-ce que j'ai raison de croire ça? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Si tu es dans cet état ce matin, regarde autour de toi. Change ta perspective. Partout dans le monde, l'évangile progresse. Partout. Des hommes et des femmes choisissent de suivre Jésus au détriment de leur vie. Parce qu'ils ont connu l'espérance rattachée à Christ. Ils ont goûté son amour. Ils ont trouvé la paix. Ils ont reçu la joie malgré les souffrances. Regardez autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul, les amis. Vous n'êtes pas tout seul en train de vivre votre calvaire. Non. Jésus est vrai. Jésus est vivant. L'évangile progresse encore aujourd'hui. Si l'évangile n'était pas l'évangile, si Jésus n'était pas bel et bien vivant, il n'y a rien de tout ça à se produire aujourd'hui. Le Seigneur agit pour de vrai aujourd'hui, puis il va le faire ce matin encore dans ta vie. Alors c'est ça que Paul leur dit, l'évangile progresse chez vous, mais bien au-delà. Vous n'êtes pas tout seul, ce que vous vivez c'est vrai. Et puis ensuite, ils relèvent leur foi, leur amour. Ben, c'est des vrais chrétiens. Ils sont jeunes dans la foi, mais c'est des vrais chrétiens. Ils se sont fait baptiser. Ils aiment Jésus. Ils ont choisi de le suivre. Ils ont fait ce choix. C'est super. Mais Paul aimerait protéger cela. Il aimerait protéger. Alors il leur dit en d'autres termes, je connais votre foi, votre amour. Je suis tellement content de vos choix, je suis fier de vous. Mais sachant que vous avez pris position pour Christ et connaissant votre contexte, parce que Paul connaît le contexte, il dit « Je ne cesse de prier pour vous ». Et il le dit déjà deux fois juste dans cette introduction. « Je ne cesse de prier pour vous ». Et en Colossiens 4, on verra que Epaphras aussi, c'est écrit « Epaphras ne cesse de prier pour vous ». Donc il connaît la situation et il cesse de prier pour eux. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Qu'il soit rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Waouh! Connaissance de la volonté de Dieu. Afin qu'ils grandissent, afin qu'ils s'affermissent, qu'ils discernent. C'est ainsi qu'ils pourront vraiment avoir du fruit, qu'ils pourront marcher. Après, il est écrit « pour marcher d'une manière digne ». Verset 10. Alors, vous devez comprendre ce matin, nous devons comprendre, qu'on ne peut pas faire des bons choix si l'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Si on ne saisit pas son plan, ça va être difficile de faire les bons choix. Ce n'est pas possible de marcher sans connaître la direction dans laquelle on va. Je peux sortir de l'église, je vais où? Si je n'ai pas quelque chose dans ma tête qui dit ben, « rentre chez toi, puis je sais où c'est ben, », je ne sais pas où je vais. J'ai besoin de quelque chose. Et si ce n'est pas la direction à laquelle Dieu m'appelle, ben, il y a quelqu'un de très gentil sur le pas de l'église qui peut me dire « Monsieur Haussmann, veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Ah, ça me semble intéressant tout ça. Il est si gentil, si bien habillé, presque le tapis rouge. Je le suis. Paul parle de sagesse et d'intelligence. On ne peut pas suivre comme ça les gens. On a besoin de discerner. Ce n'est pas une question émotionnelle ou d'expérience. Il veut que nous comprenions l'œuvre de Jésus. C'est pour ça qu'il commence à l'exposer, comme je l'ai dit. Donc les Colossiens avaient besoin d'être renouvelés dans leur intelligence pour comprendre la volonté de Dieu, pour connaître Dieu, pour se laisser vraiment détourner et conduire là où Dieu les voulait. Et nous ? Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Parfois, on a l'impression qu'on peut laisser l'intelligence de côté, mais pas du tout, pas du tout. Dieu veut que vous compreniez son œuvre. Dieu veut que vous compreniez qui est Jésus. Et puis que vous le compreniez là, bien sûr, vous allez le comprendre là aussi, mais alors que vous êtes renouvelé dans l'intelligence par le Saint-Esprit, vous allez saisir ces choses-là. 1 Jean 5, 20 nous dit « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. » Amen. Donc, diapo suivante, avec cette intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, nous sommes à même de discerner la volonté, ce qui est juste, bon et parfait. Alors, au cours biblique, la semaine dernière, mardi passé, le thème était « Comment Dieu nous guide-t-il ?» Un bon thème, d'ailleurs, hein. Il y a eu pas mal de monde. Et puis, je leur racontais l'histoire d'une femme qui avait décidé de se laisser complètement guider par Dieu. Complètement. À tel point qu'elle avait perdu le bon sens. On peut dire ça. Parce qu'elle avait dit, si le Seigneur ne me dit pas de me lever le matin, je ne me lève pas. Alors moi, je vais déjà vous dire une vérité ce matin, c'est sûr que Dieu veut que vous vous leviez. Ça, c'est clair. Que ce soit physiquement ou spirituellement, il veut que vous vous leviez. Mais imaginez encore cette situation. Quelqu'un dont l'Église, de respecter, qui vient avec des bons arguments et qui vient vous convaincre que le système dans lequel nous vivons est complètement pervers, bon, quelque part on le sait, mais qu'on ne devrait même plus travailler. Il faut arrêter de travailler parce qu'on soutient une économie pourrie. Il faut arrêter. Il vous dirait alors que le Seigneur veut juste qu'on le serve lui, qu'on fasse juste ses œuvres, et puis vraiment travailler dans le séculier, il faut oublier. Et puis il vous dirait, chaque matin, il vous suffit juste de demander à Dieu ce qu'il veut pour vous dans cette journée. Hein? Et puis c'est ça être disciple. C'est là que vous allez vraiment voir Dieu agir. Arrêtez de vous lever pour aller travailler dans le séculier. Non, vous concentrez juste là-dessus, et puis arrêtez tout. Ah, puis lui va vous dire, moi je le vis, vous ne vous rendez même pas compte, tout ce que je vis, tous les miracles que je vois, c'est incroyable. Vous en pensez quoi? En plus, on vient de lire qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Ah ben, peut-être que justement, ce verset-là, on pourrait l'utiliser quand même. Arrêtons de travailler comme tous les autres, comme ne soyons pas des moutons à nourrir un système pourri, non? Discernement. Si vous n'avez pas saisi que Jésus nous a donné son esprit pour tenir dans ce monde, pour être témoin dans ce monde, alors vous allez vous laisser influencer. Ouais, c'est peut-être une pas si mauvaise idée. On serait quand même mieux d'être juste ensemble plutôt que de travailler. Si vous n'avez même pas saisi que Dieu désire que l'homme travaille, c'est bon pour lui, c'est une bonne chose. Et puis que si c'est un peu fatigant, que c'est une conséquence de la chute. Il a dit que c'est à la sueur de notre front qu'on tirerait notre pain. Oui, c'est comme ça. C'est pas si facile. Mais si vous laissez influencer, vous dites, je savais pas, et puis Dieu pourvoira, vous pouvez vous laisser avoir. Si vous êtes parent, puis que vous n'êtes pas conscient que Dieu vous appelle à être sage, et puis à pourvoir aux besoins de votre famille, vous pourriez aussi vous laisser influencer. C'est vrai, finalement, moi, des fois, j'aimerais bien arrêter de travailler, hein, franchement, je passe juste du temps avec mes enfants. Non, il faut travailler, c'est juste. Alors, bien sûr, il y a des papas, des parents qui sont au chômage ce matin, je parle pas de ça, d'accord? On ne choisit pas de l'être, Dieu le sait, il va pourvoir à vos besoins, ça c'est vrai. Il va même utiliser cette période pour vous façonner, ça je vous le dis vraiment. Il utilise ces moments difficiles pour vous façonner, pour vous rapprocher de lui. Et puis il va vous diriger dans les bonnes démarches. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est que si on ne connaît pas, si on n'apprend pas à discerner avec intelligence, on peut se faire balader. Si on n'a pas un bon sens qui est renouvelé par le Saint-Esprit, on se laisse toujours influencer. Alors c'est ça le souhait de Paul face aux diverses influences présentes. Il veut amener l'Église à grandir en maturité. Ça, c'est une question de maturité. Un auteur, professeur en théologie, a dit ceci. Le plus grand problème auquel l'Église d'aujourd'hui est confrontée n'est pas le libéralisme militant, mais le comportement immature des chrétiens à l'intérieur de l'Église. Oui, mais je bois un verre, hein. Ça fait mal un petit peu. Hein. Bon, bien sûr, il ne parlait pas de Genève. Hein. Ça, c'est clair. C'est un monsieur qui est aux États-Unis, quelque part. immaturité. L'immaturité, c'est quoi? C'est par exemple, au milieu de l'église, ça peut être la jalousie. Des fois, il y a encore des jalousies, des enfantillages. Petite dispute, la critique. Franchement, immaturité. Des réactions impulsives. Il y en a d'un coup qui s'énerve pour un truc que l'autre a dit, mais attends. Wow! Un manque d'équilibre. Moi, je crois que la maturité, c'est l'équilibre. Recherche d'équilibre. C'est aussi ne pas oser se différencier des autres. Hein, de nouveau, se conformer au monde. On n'ose pas assumer qui on est. C'est un manque de maturité. Se laisser bouffer par les soucis de la vie, les inquiétudes, les peurs. Sans jugement que je dis ces choses, mais c'est une réalité. Parce qu'on n'a pas encore saisi vraiment qui est Christ. En Luc 8, 14, il est dit, c'est l'explication de Jésus de la parabole du semeur, et il dit, « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » Les inquiétudes, les préoccupations, puis aussi les plaisirs de la vie. Hein, tout ça nous conduit à une immaturité spirituelle. Mais la principale marque d'immaturité, c'est justement ce manque de discernement. Ça, c'est la marque principale. Et Hébreux 5, 13 et 14 nous dit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Puis avant ça, il disait à toute l'église, là, il disait « Vous êtes lent à comprendre, vous êtes devenu lent à comprendre. » Donc là, je ne parle pas juste... À un moment donné, on est tous des enfants, d'accord? Il y a un moment où c'est normal, on est des enfants, puis on doit grandir. Mais le problème, c'est ceux qui devraient être adultes, qui sont restés des enfants, parce qu'il y a une méconnaissance de Christ. Il y a une immaturité qui est là. Ils n'ont pas saisi encore qui est Christ. Et j'ai envie de dire, c'est pas un problème, d'accord? Ne paniquez pas, vous dites, oh ben franchement, j'ai l'impression que je suis hyper immature. Hein 25 ans dans l'église, voilà, je suis là pour ça ce matin, hein? On va y aller, on va grandir ensemble, on va s'encourager. Alléluia. Mais dans ce texte, qu'est-ce qui ressort? C'est que donc, une marque de maturité, c'est le discernement. L'adulte discerne. Le discernement nous est donné lorsque nous demandons justement au Saint-Esprit de renouveler ses pensées. Lorsque nous lui demandons la sagesse, Jacques 1 nous dit qu'il suffit de la demander, puis qu'il nous sera donné sans condamnation, sans jugement. Demandez la sagesse, vous en avez besoin. Ainsi, nous pouvons connaître la volonté de Dieu et agir selon sa volonté. Alors, écoutez bien là, le discernement va nous amener à prendre position et va souvent nous amener à dire non. Vous savez dire non? Tout le monde peut dire
non?
Ah, c'est bien, vous n'avez plus d'excuses. Plus tu discernes la pensée de Dieu, plus tu vas orienter ta vie précisément. C'est logique, si tu comprends la pensée de Dieu, si tu comprends la volonté de Dieu, tu vas savoir où aller. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, tu vas renoncer à des choses que tu sais inutiles. Tu vas dire non aux offres qui paraissent alléchantes, mais qui sont des pièges. Parce que tu as compris, tu sais où tu vas. Et plus tu entres dans le plan de Dieu, alors ça, c'est là que ça se complique, plus tu entres dans le plan de Dieu, plus tu connais Dieu. Parce que tu connais sa volonté. Donc tu commences à connaître Dieu. Et plus tu connais Dieu, bah, tu vas connaître mieux sa volonté, et puis tu vas mieux discerner. Donc c'est un cercle, vous comprenez? On discerne la volonté de Dieu, on connaît mieux Dieu, on connaît mieux sa volonté à force qu'on avance, et puis on discerne toujours un peu mieux. Et on grandit, on avance en maturité. Alors le discernement nous permet trois choses. D'éviter les pièges doctrinaux, premièrement. Alors lorsque un gars vient te dire qu'il est prophète, qu'il a vu que tu étais en danger de mort, et qu'il peut, moyennant un petit quelque chose, te sortir de là. Tu dis quoi? Amen. Tu sais que c'est pas biblique. Tu sais que ta confiance, elle est placée en Christ. Amen. Tu évites ça. Trop souvent, on voit encore des gens qui peuvent se laisser avoir avec ce genre de choses, qui se trouvent à payer, même à s'endetter, parce qu'il a dit qu'il y avait un pasteur, je sais pas quoi, a dit que... Et puis même, les gens commencent à paniquer, puis dire, oh, mais je crois même que je suis possédé, je sais pas quoi. Puis, non, attention. La parole, c'est toujours le cadre. Hein. Évitez les pièges des loups. Lorsqu'un homme ou une femme qui se disent chrétiens, hein, c'est souvent comme ça dans le milieu de l'église, il fricote un petit peu, puis il te propose une soirée canapé, tu dis quoi ? Tu dis non ! Tu dis non, c'est pas la volonté de Dieu, ça je peux vous l'assurer. Et t'es même en droit de te demander si cette personne a bien donné sa vie à Jésus. Mais trop de gens ou de jeunes femmes se laissent avoir parce que le gars, il se dit chrétien, il est là tous les dimanches, puis alors elle lui fait confiance. Il est chrétien quand même, donc il doit savoir un peu ce qu'il fait. Attention, c'est quoi ta limite ? Toi, tu sais discerner ou pas ? Non, c'est faux ça, c'est non, tu évites le piège. Troisièmement, éviter de vivre une vie qui ne porte pas de fruits. Lorsque tu saisis le plan de Dieu pour ta vie, on peut te faire la meilleure offre possible. Tu dis non. Tu sais quelle est la volonté de Dieu, tu sais où tu vas. Et moi, je me souviens, et c'est souvent dans ces moments de choix un petit peu stratégiques, que les meilleures offres s'ouvrent devant toi. Et je me souviens que juste avant de partir en formation biblique, j'avais un travail qui s'ouvrait devant moi, qui était très intéressant. Je gagnais bien, j'étais pas un ingénieur, j'étais payé comme un ingénieur. Je travaillais comme un ingénieur. Ah, c'était bien, j'étais content. Et puis le gars, il dit, t'es sûr que tu veux partir parce que là, on va devoir ouvrir un poste là. Seigneur. Non, mais non, je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Et parfois, il y a des choix où c'est pas juste ou faux. C'est juste une question de fruits. Vous allez voir que vous allez peut-être faire un choix. Voilà, c'est pas mal ce que vous allez faire, mais simplement, il n'y aura pas le fruit. Il n'y aura pas le fruit escompté. Et voilà, plus tard, Dieu pourra toujours, hein, il peut toujours réorienter votre vie, il veut toujours vous ramener sur son plan. Mais les fruits sont importants. Lorsque tu fais la volonté, il y a du fruit. Alors, ce n'est pas toujours immédiat, c'est vrai. Ce n'est pas toujours le fruit que nous, on pense, comme on l'espère, mais il y a du fruit. Alors voilà, je reviens à Paul. C'est tout ce que Paul demande au Seigneur pour l'église de Colosse. Il ne veut pas que cette église tombe dans les pièges, mais qu'il discerne la volonté de Dieu pour marcher là où Dieu les veut et porter du fruit abondant. Je suis bientôt au bout, diapo 18, un verset que j'ai souvent cité quand j'étais ado. Vous devinerez pourquoi. Tout m'est permis. Je m'arrêtais là. Non, Luc, tu ne sors pas ce soir. Tout m'est permis. Oui, mais la suite ? Tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer ou asservir par quoi que ce soit. Alors c'est vrai, j'aimais bien penser que tout était permis. Mais à quelque part, c'est vrai. À quelque part, vous êtes libre. Vous êtes libre. Nous sommes libres. C'est de nouveau une question de maturité. La maturité nous invite à profiter de ce que Dieu nous offre avec équilibre et non avec excès. Et le discernement nous apprend à distinguer ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Ok, ça c'est quoi ? Utile, pas utile ? Ouais, pas utile. Ça avance quoi dans ma relation avec Dieu ? Utile, pas utile ? Posez-vous ces questions. Même dans notre emploi du temps, c'est bon. On peut quand même. Hein ? C'est pas se lever ou pas se lever, d'accord ? Mais orienter notre emploi du temps. Il veut nous aider. J'aurais pu faire trois choses différentes. Franchement. Il y avait l'Assemblée Générale du Réseau Évangélique Suisse, qui fête ses 10 ans anniversaire. Alors il y avait l'Assemblée Générale où je devais théoriquement y aller. Un moment de fête après, il y avait un super séminaire à Emmaüs pour le ministère parmi les enfants, magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Être avec mes enfants parce qu'ils faisaient une petite course sportive, là, voilà, trois choix. Et puis bien sûr, le quatrième, c'était encore me concentrer sur ma prédication. Qu'est-ce qui est utile, pas utile ? C'est vrai que ma présence au réseau évangélique suisse aurait peut-être été bien. Hein, parce qu'en tant que pasteur et responsable de je sais pas quoi, c'est quand même bien d'être là. Mais Seigneur, utile ou pas utile ? Pas utile, tant pis. Si ma présence était pour faire bonne figure, alors c'était pas utile. C'était pas utile. J'ai meilleur temps de me concentrer sur ma prédication pour vous ce matin et sur la vie de mes enfants qui allaient courir, n'est-ce pas ? Des choses utiles, pas utiles. Dernier point important. En fait, vous savez, l'ennemi exploite nos manques, alors que Jésus veut les combler. Souvent, si on se laisse embarquer, si on manque de discernement, c'est parce que l'ennemi exploite nos manques. L'ennemi va venir nous chercher là où il y a une faiblesse. Un manque affectif, par exemple. Et puis on se dit, oui, ça va combler ça. Ça va nous aider. Mais si tu comprends, si tu discernes, si tu es renouvelé dans ton intelligence, tu comprends que Jésus, lui, comble, comble, comble et comble ta vie. Comble ceci. Tu n'as pas besoin d'aller là. Tu n'as pas besoin de faire ci et ça. Il te comble. Alors on retombe sur ce verset de Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en Christ. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Est-ce que vous le croyez ce matin? Si tu n'es pas sûr, on en reparle dimanche prochain. Ne loupe pas ce moment. Puis si tu es sûr, tu es le bienvenu quand même. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait une démarche sincère avec Jésus, mais qui restent fragiles. Une mauvaise influence dans l'église, un loup comme on les appelle, hop, ils peuvent vite chuter. Donc à travers ce message, Dieu veut t'encourager à te laisser renouveler. Renouveler dans ton intelligence. Grandir dans le discernement. Saisir quelle est sa volonté en toute chose. Dernière image en conclusion. Un bébé, vous pouvez lui donner n'importe quoi dans son biberon. Il va boire. Croyez-moi, j'en ai quatre. Alors bien fort, il y en a qui n'aiment même pas le lait. Hein. C'est un autre problème. Mais vous pouvez lui mettre à peu près n'importe quoi. Un bébé va boire. On peut le faire avaler n'importe quoi. Comme je l'ai dit, il y a des temps où on est bébé, des temps où on est enfant, mais Dieu nous invite à croître. Dieu nous invite à avancer. On ne peut pas rester un bébé spirituel. Et on doit apprendre à discerner. Quelle est la volonté de Dieu ? L'Esprit Saint vit en vous. Alors demandez-lui, quelle est ta pensée ? Renouvelle mes pensées, parle à travers ta parole. J'ai besoin de savoir ce qui est juste ou pas. Ça commence dès le biberon. Il n'y a pas besoin d'attendre. C'est de nouveau, c'est en progressant, en grandissant que ce discernement va devenir vraiment une maturité, une preuve de maturité. Et comme je l'ai dit aussi, je m'adresse ce matin à tous ceux qui devraient aujourd'hui être des enseignants. Heureusement, il y en a, gloire à Dieu. Mais peut-être que ce matin, il y a plusieurs qui ont besoin que votre discernement soit affermi. Vous devez prendre des positions claires, une fois pour toutes. Vous devez dire maintenant, ça suffit. Ça suffit d'être ballotté à chaque vague. Ça suffit de me laisser embarquer. Ça passe par la connaissance de Christ, par la connaissance de sa volonté.